L'écrivain manosquin Michel Servin a publié « L'entretien froid à l'Harmattan ».
Originaire de Manosque, Michel Servin n'est ni jeune ni inconnu. Dans les années 60, il obtient le prix international du premier roman avec « Deo Gracias » que Jean-Pierre Mocky adaptera au cinéma avec Bourville. Cela donnera un classique, un drôle de paroissien. Dans la foulée, « Les Tentes » ou encore « Les Réguliers » assurent une belle renommée à l'auteur qui, à près de 90 ans, sort aujourd'hui un livre étonnant. On a du mal à croire au grand âge de l'écrivain en lisant L'entretien froid, sauf si l'on s'attache à la réalité des scènes. Une petite ville provençale de la fin du XIXe siècle, ou des soirées mondaines en préfecture à la même époque, tout cela semble observé de l'intérieur, et c'est presque le cas, puisque Servin a utilisé les confidences transmises par les femmes de sa famille. Réception et bal en préfecture, dîner de famille comme les toilettes ou les manigances d'une adolescente, en fait, c'est l'intrigue du roman, tout cela sonne juste. Un roman quasiment sous forme de monologue où une vieille dame, du fond de son caveau, raconte sans fard sa vie dans une Provence disparue, bourgeoise certes, mais aussi très terrienne. Je vous propose d'écouter un entretien que m'a accordé Michel Servin dans sa demeure familiale à Manosque. Il sera suivi d'une autre partie, car Michel Servin a bien connu Jean Giono, et ce sera la seconde partie de l'interview que nous entendrons prochainement. Pour l'instant, il évoque l'entretien froid. Michel Servin, vous avez écrit « L'entretien froid » qui est paru à l'Harmattan. Première question, évidemment, l'entretien et avec un adjectif comme froid, qu'est-ce que ça signifie ce titre ?
Eh bien, c'est un entretien froid parce que il se passe avec une personne qui n'est plus de ce monde. Donc, il est forcément froid. Mais ce n'est pas ça la seule raison. C'est aussi parce qu'il est distancié. C'est-à-dire qu'il se fait, même si elle était présente, puisqu'elle est présente par la pensée, il y a du temps qui s'est écoulé depuis qu'elle parle. Et que l'auteur, ou le scripteur, je n'ose pas dire l'auteur, puisque je ne fais qu'écouter ce qu'elle dit, il y a de la distance. Et donc la distance amène le froid, la distance entre ce qu'elle dit et l'époque où nous sommes. Donc si on le lit à l'époque où nous sommes, on a cet intervalle où la parole se refroidit.
Alors évidemment, c'est quasiment un monologue qui est dans l'entretien froid, avec le ton de la confidence. En fait, c'est une grand-mère qui se confie à son petit-fils et qui lui raconte sa vie.
Oui, ça, c'est pas tout à fait une grand-mère, hein, c'est plus subtil, c'est une arrière-grand-tante. Donc le lien n'est pas direct avec le scripteur, hein. Je ne dis pas le narrateur, parce que c'est elle qui narre. Et comme ce lien n'est pas direct, il y a encore une fois, une distance qui indique le sens du mot froid. Vous voyez, elle lui parle, lui l'écoute, mais il ne la force pas à parler.
C'est aussi un livre qui nous permet de nous plonger dans la réalité bourgeoise des villes provençales, et notamment Manosque, fin du XIXe siècle et début du XXe siècle.
Exactement, c'est cette époque, et une époque qui pour elle est très importante, puisqu'elle était jeune, et là elle redit toute sa jeunesse, et puis son âge adulte, et puis son âge mûr finalement. Et donc, c'est dit dès le début, elle rejoint ses parents, mais elle est âgée, mais elle ne le dit pas au début, puisqu'elle raconte sa jeunesse et ce qui lui est arrivé, d'abord très simplement, et puis après, ça se complique quand elle a eu des sentiments, elle aussi, certains sentiments amicaux, ou en opposition avec sa cousine, par exemple, une de ses cousines, Edwige, et d'autres qui sont plus agréables, mais Edwige était un peu jalouse, donc elle s'opposait.
Avec un paroxysme vers la fin du roman qu'on ne va pas dévoiler, évidemment, mais d'où vous vient cette connaissance de cette période et en même temps de ces scènes assez incroyables? On est dans du Visconti, on est dans du Balzac aussi, où on a des balles, les balles de la préfecture qui sont très très colorées.
Bien, écoutez, je vais vous dire, je n'ai pas connu cette époque, évidemment. Parce que moi, j'étais, quand elle me parlait réellement, j'étais très jeune. J'avais peut-être entre 4 et 8 ans, 10 ans peut-être. Mais j'ai enregistré tout cela et ça m'est revenu à mesure qu'elle, en tant que personnage, elle me le raconte. Et alors là, ce sont des souvenirs aussi, mais ce sont à la fois ses souvenirs et mes souvenirs qui sont comparés, confrontés. Et qu'ils sont exacts, parce que tout ce qu'elle dit est quand même exact, puisqu'elle, elle l'a vécu. Moi, je l'ai entendu, c'est tout.
Vous venez de lever le voile, Michel Servin, sur le fait que ce n'est pas tout à fait une fiction. Il y a aussi quelque chose d'autobiographique dans votre roman.
Ah, autobiographique, non. Puisque c'est elle qui parle, c'est la narratrice, n'est-ce pas? Alors c'est son autobiographie à elle, mais pas la mienne, sauf quand je lui pose une question, sans la formuler d'ailleurs, puisque le scripteur, je ne dis pas l'auteur, hein, je n'y suis pour rien, ne dit pas une parole. Elle répond à ce qu'il est censé lui dire, mais on ne l'entend pas. Et jusqu'au bout, il ne prononce pas un mot, n'est-ce pas ? Et on ne sait même pas son nom, ni le sien d'ailleurs, puisque c'est d'ailleurs quand on parle, on ne donne pas son nom quand on parle de soi. Donc elle raconte sans dire son nom directement.
Par contre, dans votre livre, vous donnez quelques noms, des noms qui sonnent à nos oreilles de Manosquin et des familles qui ont réellement existé, qui continuent à exister. Et puis, il y a quelques portraits qui sont croustillants. Je pense à un jeune homme plein d'avenir ou à une femme que l'on appelle la reine, qui est magnifique, peut-être idéalisée. Et puis, il y a ce personnage incroyable, un arriviste à la Rastignac, Montagnier.
Eh bien, là aussi, ce sont des personnages qui ont existé, absolument. Et je crois même que Montagnier a été aussi utilisé par Jean Giono, je crois. Hein. Et c'était un arriviste, mais très très astucieux, et qui avait senti que les gens de Manosque aimaient le jeu. Et alors, il leur dit, pouvez-vous gagner une semaine de pain ou deux semaines de pain, et il leur fait jouer et il donne une pièce et après ils doivent regagner cette pièce. Et là, ça s'est passé vraiment d'ailleurs, et dans une salle qui existe encore derrière la mairie.
Il arrivait aussi à se faire aimer de la part de ses joueurs, entre guillemets. Alors,
bien sûr, puisque les joueurs étaient censés gagner le petit sac contenant la pièce d'or, et ils pouvaient les toucher, mais des yeux seulement. Il ne pouvait pas tâter le sac qui contenait la pièce d'or, il l'aurait trouvé tout de suite.
Michel Servin, on sait depuis 1963, depuis Deo Gracias, qui a été repris au cinéma avec Bourville par Jean-Pierre Mocky, le drôle de paroissien, on sait que l'écriture n'est pas tout à fait votre métier, mais que c'est votre passion, et ça se ressent très bien dans le dernier roman que vous venez de faire paraître. C'est un bonheur pour vous, l'écriture, c'est un besoin aussi.
Un besoin, certainement, et une détente jamais comblée, jamais satisfaite. Ça n'est pas mon métier d'origine. Et Jean-Pierre Mocky, avec lequel je suis en très bon terme, raconte un peu, brode un peu. Quand il dit, par exemple, que j'ai été chimiste, c'est complètement faux. Je n'ai jamais été chimiste. J'ai eu une formation d'ingénieur électricien, mais nullement chimiste. Physique un peu, enfin, il faut avoir quelques connaissances en physique, mais en chimiste, pas du tout. Après, il raconte que ce que je dis dans le Deo Gracias, le premier livre, c'est mon autobiographie. Absolument pas. Il raconte que j'avais été sollicité un prêtre en lui demandant un peu d'argent parce que j'étais gêné, et que comme ce prêtre là m'avait refusé, je me suis soulagé, pour ne pas dire vengé, en prenant l'argent des troncs. Mais c'est absolument pas vrai. C'est pas du tout autobiographique, c'est imaginaire. Et ça vient très bien quand on est dans une église et que vous entendez des gens qui mettent de l'argent. D'ailleurs, dans le film, c'est très bien montré. Ting, 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 il entend l'argent. Et alors, ça lui fait une sorte d'éblouissement. Il se dit, ben voilà la solution. Voilà la mine inépuisable. Il y a, dans cette église, il y a peut-être 50 troncs et il y a peut-être une centaine d'églises autour de Paris. Cela me fait un nombre incalculable de banques ouvertes où je puisse aller puiser. Et c'est là qu'il explique comment il rentre, il arrive chez ses parents, et ça c'est bien fait, c'est un mot qui a très bien fait, il arrive en chantant chez ses parents, et il dit ça y est, j'ai trouvé la solution, et toute sa famille qui est affamée dans la pauvreté la plus noire, et qui ne veut absolument pas travailler, car le travail est interdit dans cette famille, qui est prétendument aristocratique, et qui se tient à la première phrase du livre, qui est « plutôt mourir que travailler ». Donc ils ne veulent absolument pas travailler, mais ils veulent bien profiter de l'argent des autres.
Voilà. Michel Servin, avant d'évoquer un grand écrivain de Manosque que vous avez connu, Jean Giono, un mot sur un parent de Michel Servin, justement, et dont une peinture orne la couverture de l'Entretien froid, c'est de Louis-Denis Valvérane, un peintre magnifique. Cette couverture, d'ailleurs, c'est vous-même qui l'avez choisie.
Oui, nous avons l'original du tableau qui figure sur la couverture et qui représente ma mère à l'âge de 14 ou 15 ans. Je ne sais pas exactement la date, mais c'est au jour de ça. Et ce tableau est en excellent état. Nous l'avons utilisé, nous l'avons proposé à l'éditeur, qui l'a trouvé très bien également, et qui l'a utilisé. Et vous voyez ici, sur ce mur, une exposition de Louis-Denis Valvérane que j'ai organisé. C'était déjà en 2005, non, combien, 2000, 2008
2005.
2005. En 2005, ce qui fait quand même 5, ça fait 9 ans. Hein, 9, 5. Et que nous avons fait à Manosque, avec tous les tableaux que nous avons pu réunir, et qui sont quand même assez nombreux. Ils ne nous appartiennent pas tous, mais il y en a qui sont à Digne, il y en a qui sont à Salon, il y en a qui sont à Manosque, car il y a eu un legs important fait à Manosque avec des tableaux de Louis-Denis Valvérane. Et puis nous avons les nôtres aussi. Voilà. Et à un moment, ma grand-mère, qui, Louis-Denis Valvérane étant son cousin, qui s'entendait très bien avec lui, elle avait pensé qu'il aurait pu illustrer des œuvres de Jean Giono. Et elle pensait les faire se rencontrer, mais malheureusement, je l'appelais l'oncle, hein, mon oncle Louis, il était le parrain de mon frère aîné, et il est décédé en 1943, donc ils n'ont pas pu faire cette rencontre, mais ça l'aurait sûrement intéressé.